10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Vaccination. 30 millions de personnes ont reçu au moins une dose en France. Annonce faite hier par Jean Castex sur ses réseaux sociaux, soit 3 jours avant la date prévue par l'exécutif. Par ailleurs, la vaccination pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans va commencer mardi. Pour le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer, c'est d'ailleurs un impératif arithmétique pour atteindre l'immunité collective. Variant Delta, un cluster a été détecté dans une école d'art à Strasbourg. Selon l'Agence régionale de la santé, 4 cas positifs ont été identifiés et 43 sont en cours d'investigation. Au total, 143 personnes ont été testées vendredi. La préfecture du Bas-Rhin a annoncé la fermeture de l'école. Politique, Jean-Luc Mélenchon a été enfariné hier lors de la marche des libertés contre l'extrême droite. Le chef de file de la France insoumise a reçu un jet de farine au départ de la manifestation parisienne. Suite à ce geste, le candidat à la présidentielle a indiqué, je cite, c'est pour m'intimider, même si c'est pénible, il ne faut pas reculer. Télévision, le CSA a mis CNews en demeure pour avoir donné trop la parole au Rassemblement National. La chaîne avait déclaré n'avoir donné que 7 minutes à Jordan Bardella, le candidat du parti aux élections régionales en Île-de-France, alors qu'il a en réalité pu s'exprimer une heure. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la chaîne de se conformer à l'avenir aux dispositions en matière de pluralisme politique. Élection, un fort taux d'abstention a été constaté pour les législatives en Algérie. Le taux de participation a atteint un peu plus de 30% hier dans le pays, soit le score le plus faible depuis 20 ans. Le résultat des votes devrait être connu dans quelques jours. Cinéma, Franck Dubosc laisse planer le doute sur le retour de la saga Camping. L'acteur n'a pas fermé la porte à un éventuel Camping 4, même s'il a quelques réticences. Selon lui, la mort de Claude Brasseur rend une suite plus compliquée. S'il ne dit pas non, ce n'est pour l'instant pas en projet pour lui.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans l'actualité locale, on va tout d'abord au Perret en Yvelines où ce dimanche, au parc municipal, vous pourrez aller visiter un marché des potiers et des sculpteurs d'art, admirer ainsi les créations de nombreux artisans et artistes présents pour présenter leur métier et vous faire découvrir leurs techniques et les matériaux utilisés. Et puis, notons qu'aux Essarts-le-Roi, la fête de la nature qui devait avoir lieu le 9 mai de 10h à 18h30, eh bien, a lieu ce dimanche en centre-ville avec de nombreux stands, de nombreuses animations. L'objectif étant de faire comprendre que le développement durable est l'avenir de la planète. On va du côté de l'Eure-et-Loire, à Épernon plus précisément, où on recrute pour une équipe de football féminin pour la catégorie senior 17 ans et plus. Entraînement ouvert à toutes jusqu'à la fin du mois de juin. Si vous aimez le foot, la compétition et la bonne ambiance, alors n'hésitez pas à rejoindre ce club. C'est au stade du Closelet, Épernon. Il faut contacter Fabrice au 06 62 26 18 01. 06 62 26 18 01. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des marchés aux Essarts-le-Roi, également un marché à Bonnel et à Clairefontaine. Allez rencontrer vos commerçants. Je vous rappelle enfin que Rambouillet a décidé de lutter contre les incivilités qui peuvent polluer et dénaturer la ville. Ainsi, il est rappelé au travers d'une campagne d'affiches fort originale que vous trouverez notamment sur les panneaux d'affichage de la ville que les incivilités peuvent coûter très cher. Pour un mégot jeté, 135 euros et jusqu'à 1500 euros pour une décharge sauvage. La municipalité a décidé dans un premier temps de faire appel à l'esprit civique de chacun avant de verbaliser. La météo de ce dimanche, tout au long de la journée, c'est un ciel qui alternera soleil et quelques passages nuageux. Les températures iront jusqu'à 24-25 degrés la nuit prochaine, nuit avec quelques éclaircies. Et puis lundi matin, eh bien vous réveillerez avec un ciel dégagé, 15 degrés et 28 à 29 degrés dans l'après-midi.
Et oui, merci Jean-Marc pour ce flash local. On vous retrouvera dès 11h. Dans quelques instants, il sera temps de parler sport, évidemment, avec Philippe Carnus et ses invités dans Tribune Sport jusqu'à 11h. Et je vous rappelle, juste avant notre page Facebook Radio RVE, pour rester au plus proche de l'actualité locale. À présent, Philippe, je vous laisse la parole. Très bonne écoute.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport.
avec Philippe Carnu.
Bah effectivement Damien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en studio, hein, c'est la vraie radio, avec donc ce matin une émission naturellement portée sur l'actualité. On va faire le bilan de la quinzaine de Roland-Garros, on parlera un tout petit peu aussi du début de l'Euro de foot avant de se mettre en configuration Euro dès la semaine prochaine. On va saluer nos deux invités. Alors, un était avec nous encore la semaine dernière dans le dernier Tribune Foot de la saison. Il aime autant le tennis que le foot, c'est notre ami Pierre. Salut Pierre, ça va ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous, oui ça va très bien.
Pleine forme ?
Pleine forme, ravi d'être au studio.
Quelle actu, hein ?
Belle actu.
Voilà, et puis il intervient aussi régulièrement, lui aussi aime autant le tennis que le ballon ovale, il intervient régulièrement sur le rugby. Il va parler tennis ce matin, il va être, je sais, très très critique, c'est notre ami Christian Rieux. Salut Christian.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Oui, il faut parler bien près du micro, voilà Christian, ça sera mieux, voilà. Donc tout va bien Christian ?
Oui, oui, très bien.
Très bien, ok. Et puis on devrait aussi en principe avoir le président du tennis club de la carrière, Nicolas Ricard, qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Alors messieurs, d'abord, le bilan de cette quinzaine. Bon d'abord, il a fait super chaud sur Roland-Garros, 15 jours donc de soleil, il n'y a pas eu de pluie, ce qui n'est pas toujours le cas.
Pas de match interrompu cette année.
Ouais.
Le retour du public aussi, ça c'était vraiment un enchantement. Moi, quand on voit le public vibrer pour certains matchs comme on a pu le voir, ça fait plaisir. Et puis pour être allé plusieurs fois à Roland-Garros, c'est vrai que quand on est sous le soleil et qu'on regarde des matchs de tennis, c'est vraiment très plaisant.
Alors c'est vrai que bon, cette quinzaine on l'avait décalé d'une petite semaine, hein, pour respecter donc les jauges et puis les normes. Finalement on a eu raison parce que la deuxième semaine il y avait plus de monde.
Oui, et puis c'était plus facile, c'était plus simple pour tout le monde et ça a permis pour les night sessions comme ils disent, pour les matchs de nuit, d'avoir du monde jusqu'au bout, le avec toit, des belles surprises, et puis avec le toit, oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment une réussite sur Roland-Garros, enfin, en matière de spectateurs, en matière d'autres choses, c'est un peu plus compliqué.
Et même de spectacles, quand même, on a eu des beaux matchs, on va en parler, on a eu des belles demi-finales, hommes et même femmes.
Oui, bien sûr. Après, si on est un peu chauvin, c'est un peu compliqué.
Ouais. Bon, Christian, belle quinzaine, vous aussi, vous partagez le retour du public, Roland-Garros ensoleillé
Oui, très bien. Et puis nous avons des monstres sacrés qui commencent à tirer un peu la révérence. Bon, Federer, Djoko et Nadal, ils sont poussés dans le retranchement par ces jeunes qui ont les dents longues, hein, Tsitsipas, Zverev, sans compter Dominique Thiem qui
il est en creux actuellement. Alors justement, on va revenir donc sur cette quinzaine cet après-midi, donc finale entre Djokovic et puis Tsitsipas le grec. Vous la voyez comment cette finale? Djokovic favori en 4-7 par exemple, Pierre?
Oui, c'est vrai que Djokovic ça me paraît évident puisque on sait qu'il court après les titres du Grand Chelem pour rattraper justement Nadal et Federer. Et je vois pas pourquoi je vois pas comment il laisserait passer l'occasion justement de rattraper les deux monstres. Tsitsipas me paraît peut-être un peu tendre face à l'événement.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait souvent la différence.
Donc après c'est vrai que Djokovic a livré une bataille contre Nadal.
Tsitsipas aussi, hein.
Voilà.
5-7 aussi, hein.
C'est vrai que mais émotionnellement, je veux dire ça a été un match à part, enfin. Je pense qu'on va revenir sur ce match, mais je vois quand même Djokovic favori et 7-7. Je le vois gagner même en 3-7.
3-7.
Ah oui.
Christian.
Oui, Djoko, il a l'expérience et en plus il a battu Nadal, il est sur un nuage. La fatigue se ressent moins quand avec la victoire. Bon, Djokovic, s'il s'y passe, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Hein. Par moment, il y a des trous d'air. Bon,
alors vous, l'éducateur tennis que vous êtes, la force de Djokovic, c'est quoi? Et la force de Tsitsipas, c'est quoi?
La force de Djokovic, c'est qu'il a un jeu phénoménal. Hein, il est capable de mettre la balle où il veut, à la vitesse où il veut. Bon, et puis, c'est un joueur très complet. Le service, la volée, les amortis, il sait tout faire. Hein. Et puis à son âge, déjà, il commence à avoir
c'est ça, en fait.
Des tours de roue. Hein.
C'est qu'au départ, sur terre battue, c'était pas forcément ça.
Un seul Roland-Garros.
Voilà, c'était pas forcément sa surface de prédilection, mais là, on voit qu'il la maîtrise de plus en plus avec ses amortis. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est surtout sa relance au service. et sa défense, quoi. Parfois on a l'impression qu'il se contorsionne, qu'il fait le grand écart pour aller chercher des balles. Et ça, c'est impressionnant. Ça a toujours été impressionnant chez lui, ça.
Oui, mais moi je vois chez Djokovic aussi une amélioration physique, parce qu'il n'avait pas de physique suffisant pour gagner sur terre battue. Et puis il a fait beaucoup de travail physique, d'endurance, de résistance, musculation, bon, etc. Il est devenu une bête, comme on dit.
Oui, oui, physique, une machine. Hein.
Voilà, qui est capable de tenir 4-5 heures.
Oui, parce que nous, on le sait, mais par exemple, pour le grand public, les néophytes qui connaissent pas trop le tennis, la différence entre la terre battue, le synthétique et puis le gazon, c'est plus physique.
Voilà,
la terre battue, Christian.
Ah ben oui, physique
je le sais,
au
mais
maximum.
Bon.
Hein.
Ouais.
Bon, et puis il faut voir que. Il y a des glissades, le jeu à contre-pied est souvent utilisé, donc ça demande beaucoup d'efforts physiques. Hein. Mais on pourra s'interroger, si on reprend Djokovic, sur son aller et retour au vestiaire lors du match de...
Oui.
Comme d'habitude, quoi,
oui,
j'ai envie de
oui,
dire.
Oui,
Pour le grand public ou les passionnés de tennis, ouais. Djokovic a une cote d'amour un peu plus faible que
oui,
Roger Federer et Rafael Nadal.
Nadal, c'est une idole.
Voilà.
Roland Garros.
Parce que aussi, il joue de ça. Djokovic, il a tendance à, quand il est pas bien dans un match,
oui,
s'arrêter, voilà. Partir et ouais. Rentrer dans le vestiaire puis revenir. Et
c'est psychologique. Ça.
Mais non, mais après, bon, il a le droit, donc voilà. il le
mais
fait.
L'Italien menait de 7-0
oui, oui.
Et puis il va au vestiaire.
Musetti contre Musetti.
C'est en quart.
Mais c'est vrai que pour revenir sur la surface, la terre battue c'est plus lent, c'est la balle arrive moins vite et donc du coup c'est pour ça que wow. le contre-pied et les échanges sont plus longs. Après à leur niveau de tennis, il suffit que il fasse très chaud ou qu'il fasse moins chaud pour que la surface change aussi.
Bien sûr.
Et ça avantage un joueur ou l'autre.
Voilà, mais la terre battue, bon, il faut voir que c'est très difficile de finir le point à un seul coup de raquette, hein.
Oui.
Contrairement
aux surfaces rapides.
Aux surfaces rapides. Bon, c'est une construction du jeu. Hein. Alors, c'est pour ça que tous les joueurs, lors de leur formation, devraient jouer sur terre battue.
Oui.
Parce que c'est très. D'abord, il y a plus de temps. On peut voir comment construire son jeu. Et deuxième temps, ça oblige à être patient, à construire. Hein,
Exactement.
Alors, justement, je regardais, pendant que vous étiez en train donc de disséquer la terre battue, Nadal et Federer ont gagné 20 grands chelems. Djokovic, s'il gagne, ça fera 19.
Hein. C'est ça.
Donc, il va vraiment rentrer dans l'histoire du tennis. Il va peut-être même les dépasser dans les prochains tournois.
Probablement.
Sampras, 14. Emerson, 12. Et Lever et Borg, 11. Voilà. Et puis, on va quand même rappeler qu'il y a eu 58 confrontations entre Djokovic et Nadal. Et Djokovic en a gagné 30 contre 28 contre Nadal. Donc,
oui.
C'est très, très serré quand même. Hein.
Oui, pour revenir sur les grands chelems, on peut à la fin du mois de juillet, après Wimbledon, avoir trois joueurs à 20 grands chelems. Mm-hmm. Si Djokovic va chercher Wimbledon.
Oui, parce que Federer et Nadal sont plutôt jeunes. Hein.
Non, et puis que, bon, on sait, Rafa Nadal, il a gagné Wimbledon, mais c'est pas la surface qu'il préfère. Mm-hmm. Et puis, après Roland Garros, ça va être compliqué. On l'a vu sur la fin du match contre Djokovic, il était épuisé physiquement.
Oui.
Après, voilà, le principal adversaire de Djokovic, ça va être Federer. Il s'est préparé, il a fait Roland Garros pour. En fait, le tournoi de Roland Garros c'était une préparation pour Wimbledon. Donc, il va essayer d'aller chercher son 21e titre à Wimbledon.
Ouais, ouais. Alors, Djokovic Federer 27-23 dans les confrontations en 50 rencontres. Et puis Federer Nadal, c'est Nadal qui, pour l'instant, mène devant Federer 24-16. En 40 confrontations.
Ça ouais, on a la chance de voir trois joueurs de légende en même temps et il faut en profiter jusqu'au bout parce que ça va être bientôt fini malheureusement.
Ah oui. Alors tiens, Nicolas, il vient d'arriver. Salut Nicolas, on l'attendait.
Bonjour. Désolé.
Président du tennis club de la Clairière. Nicolas, même question qu'à Christian et puis à Pierre.
Oui.
Comment vois-tu cette finale?
Oh ben là, c'est un jeune qui arrive désormais, Tsitsipas, oui. avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Enfin, peut-être qu'il va être le plus grand joueur de tous les temps.
On est en train de comparer justement Federer, Nadal et puis.
Ouais, Djokovic, en fait, c'est le plus jeune aujourd'hui, voilà. Djokovic. C'est celui qui peut gagner sur toutes les surfaces. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est lui qui demain pourra détenir le nombre de grands chelems le plus important s'il continue sur cette trajectoire.
Ça ferait 19 aujourd'hui, s'il gagne.
S'il gagne 19 aujourd'hui. Mm-hmm. Les autres sont à 20, il peut gagner à Wimbledon, il peut gagner partout.
Et on a vu qu'il est en tête devant les confrontations face à Nadal et puis face à Federer aussi.
Ouais, exactement.
Et puis donc Nadal est en tête devant Federer. Ça a été une belle quinzaine.
Ah oui.
Il n'y a pas eu de pluie.
Il n'y a pas eu de pluie, il y a eu une belle quinzaine, il y a eu des super matchs, surtout sur la seconde semaine. Mmh. La première semaine, malheureusement, il y a eu les Français.
Ouais. On va en parler.
Qui n'ont pas atteint, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, le troisième tour. Mais sinon, ça a été vraiment de beaux matchs.
Deux demi-finales d'anthologie quand même, en 5-7, c'est quand même des matchs qui vont marquer. Ça m'a rappelé une demi-finale Federer-Djokovic en 2011, cette demi-finale. Ça avait été exceptionnel, ouais. Bon, c'est une bonne promo pour le tennis. En plus, avec des jauges qui reviennent.
Voilà, les jauges qui reviennent, le stade qui est magnifique.
Et oui.
Franchement, après, et une organisation avec la Net Session à 21h sur le Châtrier, financée par Amazon. Voilà, une dérogation vendredi soir.
Ouais.
Non, mais c'est super pour le tennis. Je trouve véritablement que c'est une super promotion et c'est une super quinzaine.
D'accord. Donc on est tous d'accord, Djokovic cet après-midi devrait l'emporter.
Ouais, moi je suis pour Tsitsipas.
Il avait été battu par Wawrinka en 2015.
Je pense que Tsitsipas aujourd'hui c'est le meilleur joueur sur terre battue depuis le début de l'année. Je pense que
il a des trous dans la raquette, dit Christian, des fois.
Oui, il y a des passages à vide.
Oui, il est jeune.
Ce qui fait que un joueur comme Djokovic, il va pas lui faire
exactement. Il va se confronter à ce qui se fait de mieux, Djokovic. Donc, bon, on verra Tsitsipas déjà si physiquement il a bien récupéré, s'il arrive à maîtriser ses nerfs pendant la finale, parce que il y a un enjeu mental qui est considérable. Mmh. Et après, on verra le match. Mais enfin, un match en 5-7, franchement, on ne sait pas à l'avance comment ça va se dérouler.
Mais les conditions de jeu avec la chaleur et les balles vives favorisent quand même le jeu de Djokovic. Alors que Tsitsipas, c'est quand même le joueur de terre battue type. Bon, qui prend plus de temps, qui construit davantage, bon, etc.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, voir, mais non, ça va être un beau match en tout cas.
Troisième défaite de Nadal sur Roland Garros, sur l'histoire de Roland Garros, c'est la fin d'un cycle.
Non.
Il peut gagner Roland Garros.
Oui, je pense. Bon oui.
Moi, je pense pas.
Ah oui.
Parce que il faut voir, il y a des conditions. Avec le vieillissement, la vitesse de réaction du joueur est plus lente. Il va moins vite. Il récupère. Il lui faut plus de temps pour récupérer et le champ de vision se restreint. Bon, avec la fatigue et avec l'âge, il faut savoir qu'il y a des conditions qui font que le joueur devient moins performant. On parlait en aparté. Moi, j'étais un fan de Nadal et cette année, j'avais misé sur Djokovic. Pourquoi? Parce que à cause de l'âge et des.
Ils ont le même âge.
Mais deux ans d'écart, c'est beaucoup.
Non, je suis plutôt malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour Nadal de regagner un Roland Garros. Même si je le connais pas, mais il a tellement un état d'esprit conquérant qu'il va essayer. Il va y retourner l'année prochaine et il va faire comme cette année. Il va se préparer surtout pour Roland, donc il va aller à Madrid, il va aller à Monte-Carlo, il va aller à Rome et il va peaufiner son jeu. Et puis après ça dépendra aussi du tirage au sort, parce que si cette année Djokovic n'avait pas été dans et Roger n'avait pas été dans sa partie de tableau, peut-être qu'il aurait retrouvé Novak en finale et ça aurait été autre chose. Après c'est un peu de la science-fiction que je fais, mais je pense que l'âge déteint plus sur Nadal que sur Djokovic, malheureusement. Et qu'il a plus de problèmes de blessures avec ses genoux et ses chevilles, etc.
Alors, chez les hommes, on parle toujours de Nadal, Djokovic, Federer. Il y a eu un gros renouvellement chez les femmes, quand même. Depuis 10 ans, je crois que j'ai même regardé, même depuis plus loin, 2005, 2006, 2007, c'est Hénin qui a gagné. Depuis 2007, on a chaque année des filles qui changent comme vainqueurs de
Roland-Garros. Ça va faire la sixième année de suite. que c'est une femme qui va gagner Roland Garros et qui va gagner son premier grand chelem pour la première fois.
Son premier grand chelem. Alors, comment vous expliquez, Christian, donc Nicolas et puis Pierre, ce renouvellement? Cette inconstance chez les femmes, autant que c'est constant chez les hommes, autant chez les femmes, ça change depuis 2007 régulièrement.
Bon, il faut voir que le tennis de féminin est insipide, j'emploie les mots. Hein. Il faut voir que la finale...
Attention, Christian.
La finale hier, c'était une finale de troisième série homme. Troisième série. Deuxième série.
Alors, Christian, on va rappeler que c'est Krejčíková, la Tchèque, hein, qui s'est imposée contre Pavlyuchenkova, la Russe, 6-1, 2-6, 6-4.
Oui. Ouais. Il n'y a que des fautes. Bon, si vous avez bien regardé le match, au bout de 4-5 échanges, et encore c'est un espoir, il y a toujours faute. Des doubles fautes en pagaille. Bon, le tennis féminin n'est pas au niveau. Non, mais il faut voir.
C'est-à-dire qu'il a du mal à se renouveler par rapport au tennis homme. Pourtant, c'est toujours pratiquement les mêmes qui gagnent le tennis homme, quoi.
Évidemment. Ouais, bon, ouais. Avant, il y avait certaines joueuses qui tenaient la route, qui pouvaient accrocher des hommes dans les 100 premiers mondiaux.
Ouais.
Là, c'est impossible. Impossible aujourd'hui. Ouais,
hein. Alors, Nicolas.
Ouais, alors c'est vrai que je trouve que les femmes, c'est ce qui est compliqué. On n'arrive pas à se repérer par rapport au circuit aujourd'hui.
Comme l'a dit Pierre,
si je vous dis qui c'est qui est dans les 10 premiers mondiales, je pense que on sort 3 noms. Et en fait, ça gagne à chaque grand chelem, il y a une nouvelle qui gagne. Ça, c'est pas bon pour le tennis féminin, parce qu'il faut quand même pouvoir s'identifier à une joueuse à un moment donné. Je dirais pas que c'est insipide, mais c'est vrai que le tennis féminin, bon, ça joue très bien, mais c'est hyper irrégulier. Et j'ai l'impression que les filles, quand même, elles sont pas mal en dents de scie. Alors, je sais pas pour quelle raison, mais alors en France, nous, on a plus une joueuse dans les 50 premières mondiales. Donc ça, c'est quand même très 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 inquiétant. Mais voilà, c'est très irrégulier. En fait, les filles, elles ont aujourd'hui un niveau assez irrégulier. Et voilà, c'est un peu surprenant.
Alors, la seule joueuse française qui soit capable d'arriver peut-être dans les 10 premières, c'est Garcia.
Garcia.
Pourquoi? Parce qu'elle a le physique. Bon, il y a des lacunes techniques, en particulier au service. Mais c'est la seule joueuse avec un travail approprié qui soit capable d'arriver.
Et pourtant, il y a eu des époques, hein, Evert 7 fois, Graf 6 fois, Courte 5 fois, Hénin et Wills 4 fois qu'on gagne donc Roland Garros. Hein. On se rappelle de ces époques-là. Alors Pierre, pourquoi il y a un tel renouvellement depuis les 3 victoires consécutives de Hénin à Roland Garros 2005, 2006, 2007?
Alors moi j'explique ça parce que chez les femmes particulièrement, la terre battue c'est compliqué, c'est beaucoup les joueuses de l'Est là qui viennent et qui l'emportent et après qui disparaissent. Oui. Je m'en rappelle d'Ostapenko.
Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses
qui gagnent tôt et qui sont jeunes et après qui ont du mal à assumer et à continuer. Après, moi, je suis pas aussi critique que mes deux compères. Moi, je regarde beaucoup le tennis et même le féminin. Et il y a des très bonnes joueuses. C'est juste que je pense qu'il y a une passation. Il y a pas une régularité à Roland Garros. Mais sinon, on peut voir que sur les tournois toute l'année, Ashleigh Barty, des joueuses comme ça, ou même Sofia Kenin, des joueurs comme ça sont souvent au rendez-vous. Après, c'est des joueuses, c'est une Australienne ou une Américaine, c'est pas des joueuses habituées à la terre battue. Même si Ashleigh Barty joue très bien, il a gagné l'année dernière, mais je pense que là surtout, il y a une passation de pouvoir. Serena Williams en fin de carrière.
C'est sûr que.
Il faut trouver maintenant, comme le disait Nicolas, une joueuse qui va rester dans le numéro 1 ou numéro 2 et qui va être la locomotive en fait. On pensait qu'Ashleigh Barty pouvait le faire. C'est un peu compliqué, mais il y a des joueuses en devenir. Hein. Vous avez vu la jeune Coco Gauff là, la jeune américaine, qui a un gros potentiel.
La grecque aussi.
Maria Sakkari, Maria Sakkari, elle est sur le circuit depuis quelques temps.
En plus, hein.
Ouais, et puis sacré physique.
Ouais.
C'est
charpentée.
Elle est charpentée. Ouais. Mais je pense que cette année, c'est une année. C'est Krejčíková quand même. C'est une joueuse. Elle avait gagné Strasbourg juste avant, sur terre battue. Je pense que Ashleigh Barty, pour moi, a vraiment une technique au-dessus du lot et on la reverra gagner Roland Garros, à mon avis.
D'accord. Et ensuite, on envoie la pub, hein, ouais. Nicolas.
Ashleigh Barty, il faut savoir qu'elle a été longtemps blessée, quand même. Oui. Elle est revenue à l'Open d'Australie en début, qui a été repoussée en février. Et puis la terre battue, c'est vrai que on le joue qu'en Europe. Enfin, il joue pas aux États-Unis.
On joue un peu Rome, on peut jouer un peu Barcelone, mais enfin.
Bon, oui, voilà. Mais donc il y a la saison.
Ouais.
Mais je trouve que sur terre, c'est vrai que le niveau niveau devient. Enfin, il y a pas de différence de niveau en fait. Donc, je pense que la terre battue, c'est vraiment une surface un peu spéciale, et c'est pour ça que les résultats sont vraiment très irréguliers à Roland-Garros.
Le problème, c'est que plus la surface est rapide, plus il y a un nivellement des valeurs.
Parce
qu'on peut faire illusion, hein, avec le service, un coup, c'est dedans ou c'est dehors. Bon, on arrive à s'en sortir. Mais sur terre battue, on ne peut pas.
Parce exactement. Que ça marche. Il y a le physique, la tactique, il y a tout qui rentre en ligne de compte.
D'accord.
Et si vous n'êtes pas au top, de suite, vous êtes vers le bas et vous ne gagnez pas le match.
Allez, on enchaîne avec la pub et la musique. Et ensuite, on va évoquer nos Français et nos Françaises avec des fortunes diverses. Allez, on y va.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, Opéré-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Yeah. meilleur des années 80, c'est maintenant sur RVE.
Le meilleur des années 80 sur RVE.
Oui, et puis au site Rémi Sport, vous pourrez réécouter toutes nos émissions en podcast, y compris celle de ce dimanche 13 juin, puis le Tribune Foot aussi de la semaine passée. Que se passe-t-il au tennis français, messieurs? On a donc même pas dépassé cette année le troisième tour, c'est incroyable quand même. Christian, il se passe quoi? Bon, on gagne les doubles, on gagne chez les juniors, on en reparlera, mais que se passe-t-il? Noah chez les hommes et Pierce chez les femmes peuvent dormir tranquille.
Bon, le problème, c'est que la formation française est très bonne, puisque, bon, on voit qu'il y a quatre juniors qui sont dans les...
Alors, question, on va rappeler, c'est Vanhage qui a battu Fils en 2-7, donc il a gagné 6-2, 6-4, voilà.
Voilà, mais le problème...
Fils qui est estonien.
Le problème, c'est qu'à partir au-dessus de juniors, rien ne va plus. Bon, les étrangers ne vont pas dans les tableaux juniors. Hein. Ils vont immédiatement se fronter sur le circuit pro. Alors, il y a un problème de formation de joueurs et ce qu'on appelle l'hyper-performance. Qu'est-ce que c'est que l'hyper-performance? Ça a été défini par un professeur qui est officier à la Sorbonne, hein, Bertrand Pullman, et il dit ceci. Il y a 4 P. La préparation, premier point, 2, le partage, 3, la persévérance et 4, le plaisir. Le plaisir en dernier. Préparation, l'idée que pour être au top au bon moment, il faut être au top en permanence. Au plus haut niveau, on ne peut pas se passer d'avoir un trou. Hein. Il faut être au top tous les jours de l'année et savoir s'investir à 100%. Bon, un type comme Nadal, ça a été une bête des cours. Hein.
Mais il y a des trous quand même, Christian. Tim, il a un trou actuellement, par exemple.
Oui.
Voilà,
oui,
donc ça peut arriver. Hein.
Non, mais il faut...
Murray, il a un trou. Hein.
Non, mais il faut dire aussi, il y a des blessures, il y a des maladies. Oui. Bon, il y a des explications.
Oui, ça peut arriver, mais bon, c'est de rebondir.
Ensuite, le deuxième point, la persévérance. Alors, sans travail, rien n'est possible. Les jeunes, même s'ils sont bons techniquement, c'est l'exemple, c'est Gasquet, hein, bon, qui faisait ce qu'il voulait avec la raquette, mais il n'a pas assez travaillé pour être dans les meilleurs.
Est-ce qu'ils ne sont pas dans un certain confort? C'est ça le problème.
Ouais. Une petite anecdote par rapport à Gasquet. Ouais. Il y a 4 ans ou 5 ans, il va s'entraîner donc chez à Manacor chez Nadal. Pour faire une semaine d'entraînement.
C'était trop dur?
Ouais. Au bout de deux jours, il est rentré à Paris. Ah ben voilà. Au bout de deux jours, il a quitté, il a dit c'est trop dur, j'en peux plus.
Voilà.
Non mais, pour vous dire, c'est une petite anecdote.
Non mais voilà, ça résume tout. Hein.
Mais oui, alors que des joueurs comme Nadal sont capables de passer à très forte intensité 6 heures par jour. Et c'est des gens qui ont horreur de la défaite.
Ah oui.
Le problème, le champion, c'est quelqu'un qui ne peut pas perdre. Bon, il faut qu'il gagne tout le temps. Et ça, c'est aussi tout un travail mental à faire avec des...
J'ai l'impression, moi, Philippe, que c'est un mal général dans le sport français, en fait.
Alors, il y a des sports qui ont progressé quand même.
Oui, mais.
Des sports qu'on connaît bien, comme le foot.
On parle beaucoup de foot. Ouais, mais dans le foot, Philippe, on entend souvent dire que, en France, les joueurs, ils s'entraînent moins. Et quand ils vont à l'étranger. Oui, bien sûr. Quand ils vont à l'étranger, ils s'entraînent plus, etc. C'est plus exigeant. On est plus la défaite, etc.
Ouais.
Après, là.
On a eu le cas du hand quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais voilà,
Mais c'est vrai qu'il y a certains sports.
Bon, aussi. Mais moi je trouve que même dans le foot ou handball par exemple, ils vont tous s'exproprier s'expatrier
en Espagne ou en Allemagne.
Voilà, dans les autres pays européens où là ça travaille ça travaille beaucoup plus quoi.
Après c'est vrai que moi je pense qu'il y a un problème au niveau de la fédération On en parlait en antenne, c'est-à-dire que les joueurs ils font des exploits, ils gagnent des Roland Garros juniors ou ils font et après on a l'impression qu'ils sont plus accompagnés une fois qu'ils ont gagné. Ils ont ils sont lâchés tout seuls dans leur dans la nature sur le circuit pro et qu'il faut qu'ils se débrouillent. Et alors moi j'aimerais bien voir des anciens joueurs, je sais pas, des grands joueurs français, au lieu d'être sur les plateaux télé à commenter les matchs, peut-être accompagner ces joueurs-là. Ouais. Et on les voit qui critiquent beaucoup tout le monde. Moi je vois Santoro, Pioline, etc. Mais ils ont besoin. Ouais, mais moi, je vois Boris Becker, ça a été un entraîneur. Ça, c'est un entraîneur de renom. L'entraîneur de Schwarzman, c'est un ancien Argentin, Chela. Enfin, et nous, ils entraînent pas. Mais ils critiquent. Alors moi, j'aimerais bien que ces joueurs-là aident nos Français à être forts mentalement.
On va entendre Christian et après Nicolas.
Je mettrai un bémol, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est un bon joueur qu'on est un bon entraîneur. Bon, quand on voit Patrick Mouratoglou, hein, oui. Moi j'ai joué, je m'ai entraîné avec lui des fois à Saint-Arnaud. Et ben, il était dans le coin ici. Hein. Bon, Patrick Mouratoglou qui a été peut-être, il a eu quelques négatifs.
Ouais, il a été négatif. Je crois qu'il a été moins 15, je crois.
Bon, même pas. Même pas. Ouais. Eh bien, Patrick Mouratoglou qui entraîne quand même Serena Williams qui a été première mondiale.
Et Tsitsipas.
Bon, il y a tout un staff d'entraîneurs. Mais...
Et il entraîne Chardy. Il a mis en place une équipe vraiment
donc,
performante.
L'entraîneur, c'est quand même particulier. Hein.
Ouais.
Et on le voit même dans d'autres sports hein, où il y a Mourinho, par exemple, ça a été un joueur de bas étage, hein.
Oui, moyen. Bon, il a plus trop la cote dans le foot.
Non,
ça c'est un autre débat.
Mais enfin, c'est pas la relation n'est pas de cause à effet. Hein.
Ouais. Alors mais... Nicolas K fait campagne pour Gilles Moreton. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en pense?
Bon, clairement, aujourd'hui, il y a un problème du passage de junior sur le circuit.
Mais de tout temps en plus, hein.
Ouais, mais là c'est marqué problème, parce que on a un nombre de numéro un mondiaux junior qui est à chaque génération on en a un. Là on en a eu un l'année dernière, Maillot et Burel qui ont été numéro un mondial. Là il y a quatre Français dans les demi-finales. Nicolas Mahut par le passé a été numéro un mondial. Il a fait une carrière en simple qui est une belle carrière,
mais ouais, ça qui double, ça va, hein.
Mais qui n'est pas du tout à la hauteur des espérances. Voilà. Mais ce passage-là, je pense qu'effectivement, il est compliqué parce que derrière, en fait, ils vivent dans un confort jusqu'à 18 ans où ils sont pris en charge par la Fédé. Ils ont un entraîneur, ils ont des installations pour s'entraîner,
le confort,
nickel. Et derrière, ils passent sur un circuit. Ouais. Donc le circuit, la seconde zone, j'allais dire, c'est les circuits futurs et Challenger. Et là, ils doivent tous se payer. Ils sont pas pris en charge. Et là, je pense que c'est compliqué pour eux d'assumer ce statut et de l'accepter. Mais tout ça, je l'ai pas vécu, donc c'est mon sentiment. Donc, mais je pense qu'il y a un problème là-dedans. Et ensuite, je pense que dans la formation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est la prépa mentale. Il y a pas assez de prépa mentale, clairement. Et je pense que comme on fait aujourd'hui le physique, qui est arrivé, depuis 15 ans, 20 ans maintenant dans les mœurs, mais la prépa mentale, on doit avoir tous les jours à l'INSEP, maintenant c'est plus à l'INSEP, mais au CNE. Un entraîneur mental qui doit travailler tous les jours avec les joueurs.
Oui.
Ça c'est indispensable. Quand on voit aujourd'hui les défaillances de nos joueuses et joueurs, des fois c'est hallucinant quoi. Mm-hmm. Donc je pense que c'est de là parce que techniquement et sur le plan de la formation, c'est bien fait tennistiquement autre, mais le plan mental, ça c'est les 20% de plus qui vont faire la différence à haut niveau.
Alors pourquoi ça marche mieux en double, hein? Mahut, Herbert ont gagné hier donc face à Bublik, Golubev, hein, 4-6, 7-6, 6-4. Pourquoi ça marche mieux en double? C'est leur deuxième Roland Garros.
Ouais, ben deuxième Roland Garros, c'est cinquième Grand Chelem.
Oui, cinquième Grand Chelem.
Parce que déjà ils jouent tout le temps ensemble, donc ils changent pas d'équipe, ils changent pas de partenaire.
Mais là, le mental ils l'ont.
Ouais, mais après tous les meilleurs ne jouent pas en double.
Oui. C'est ça.
Je veux dire, voilà, c'est clair. Et puis c'est aujourd'hui le double, c'est quand même, c'est pas aussi compliqué tactiquement et dans les faits de jeu qu'un simple. On n'a pas besoin d'être polyvalent et d'être bon dans tous les secteurs. Mmh. On a un bon service, bonne volée, bon retour.
Il y en a un qui peut compenser l'autre. Quoi.
Voilà.
Ouais.
Après. Mmh. Ouais, c'est ça. Il y avait les frères Bryan. Ils ont jamais été forts en simple.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ils étaient. Ils ont pendant 10 ans, ils ont régné
et
sur
nous,
le double.
Vous voyez, dans la défunte Coupe Davis, hein, il y avait des joueurs qui en double étaient
voilà,
marqueurs contre Geoffrey notamment. Hein.
Ouais, exactement. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, pour revenir à la fédération, je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail. C'est. Il faut savoir que pendant les 10 dernières années, on sélectionnait deux enfants par catégorie d'âge. Donc on était vraiment dans l'hyper-élitisme. Mmh. Et aujourd'hui, l'objectif de Gilles Moreton, c'est effectivement d'élargir la base pour investir sur beaucoup plus d'enfants. Mmh. Parce que, en fait, ce qu'on voit, et notamment on l'a vu pendant le Covid, c'est qu'il y a plein d'enfants qui étaient très forts et qui ont arrêté le tennis.
Ah ouais.
Qui ont arrêté le tennis. Et il y en a plein. Après, vous pouvez avoir un gamin qui ne grandit pas ou qui ne prend pas physiquement ou qui demain se blesse. Et donc, en fait, le fait de miser sur deux enfants par catégorie d'âge, on a une prise de risque qui est monstrueuse. Et il faudrait élargir sur une 50-80 gamins par catégorie d'âge parce que, je vais vous donner un exemple, mais Arnaud Clément, à 18 ans, il était classé 0. Et il a été numéro 10 mondial. Or, classé 0 à 18 ans, il est loin des meilleurs Français. Aujourd'hui, un Lucas Vanache est moins 15. Et il a 17 ans. Donc, vous voyez un peu la différence. Si, aujourd'hui, un mec comme Arnaud Clément, on l'aurait jamais financé, on l'aurait jamais aidé. Et donc, il aurait pas fait la carrière, en gros, qu'il aurait fait. Parce que derrière, il faut aussi, si c'est pas pris en charge par la Fédé, c'est pris en charge par la famille. Donc là, ça coûte très, très cher, hein, de partir
alors,
sur le circuit.
Nicolas, pour vos clubs, naturellement, c'est un désavantage. Il n'y a pas d'icône.
Oui,
c'est ça le problème.
Alors, oui, voilà. Nous, c'est effectivement, on le voit bien dans le foot quand on est champion du monde en 2018. De suite, vous avez tous les clubs qui font un boom.
Le rugby, c'était pareil en 2007, hein, un sport que vous avez bien fait aussi. Voilà.
Donc voilà, nous, voilà, dans le tennis, on était à 1,1 million, 1,2 million de licenciés, on est à 940
000.
Donc il y a une forte chute. Mm-hmm. L'avantage du tennis aujourd'hui, c'est qu'on a vu pendant le Covid que c'était assez résilient et on pouvait jouer avec la distanciation et on sent que dans les clubs on a pas perdu d'adhérents et ça a beaucoup joué avec une les gens étaient très 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 heureux de jouer. Maintenant il nous manque une icône effectivement, que ce soit en fille et en homme, et ça c'est vraiment moteur pour nos jeunes. Donc
alors
la fédération travaille dessus.
L'homme qui a connu Herman Etanvier, question. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai entraîné Catherine Etanvier.
Ah oui, Catherine
Ici, c'était au TCR.
Ah bon?
Oui.
Ah oui. Oui.
Bon,
donc, on y était. Hein. Donc
Catherine Etanvier. Elle est devenue championne de France, Benjamin.
Ouais, mais alors, moi, d'accord avec Nicolas.
Je n'avais qu'une joueuse.
Oui.
Pour l'entraînement, il y avait pas 5, 6, 10, bon.
Mais non.
Et c'était
à ce niveau-là, non.
C'était un choix de la famille. C'était parce qu'il y avait un conflit avec la fédération. C'était une structure privée complètement, hein. Mais, l'attention, l'entraînement, tout physique, c'était 24 heures sur 24.
Bien sûr. Hein. Bien sûr. Bon. Mais en fait, il faut pas surtout opposer les structures privées avec la Fédé. Et ça, la Fédé, ils avaient du mal à l'époque. Mouratoglou, il était mis de côté. All-in avec Thierry Assion et Tsonga, pareil. Et en fait, il faut qu'ils travaillent ensemble. Je pense que véritablement, en fait, il faut dire, voilà, quel est le bien pour l'enfant s'il veut avoir un coach privé. C'est pas antinomique avec le fait qu'il soit pas privilégié ou financé en partie par la Fédé. Et là je pense qu'il faut qu'il travaille, mais en tout cas c'est dans le je pense que ça va bouger, ça va changer parce que Gilles Moreton est un ancien joueur, il est accompagné d'Arnaud Clément, de Arnaud Di Pasquale. Donc je pense que ça va bouger vraiment.
On essaiera de faire une émission avec lui, hein, je vous l'ai promis.
Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien.
Mission.
Oui,
c'est ce que vient de dire Nicolas. Vous, l'éducateur tennis, vous approuvez?
C'est nécessaire qu'il y ait cette passerelle entre les structures privées et la fédération. Mmh. C'était une rivalité mortifère, hein, parce que chacun en plus prenait les joueurs.
Ouais.
Bon, il y avait.
Mais même aujourd'hui, juste pour vous dire, la Fédé, c'est un budget à 320 millions d'euros. Par an, c'est la Fédé la plus riche.
Oui.
Et aujourd'hui, quand vous allez dans les centres de ligue et les centres départementaux, ils sont vides parce que vous avez plus de jeunes qui s'entraînent. Ils s'entraînent soit dans des structures privées avec un coach privé, mais comme ils font de l'ultra-élitisme, en fait, il y a deux joueurs par catégorie d'âge, ils sont vides.
Alors,
et on paye des CST et des CTR pour rien, quoi.
Bon, le problème, c'est un problème essentiel. Le problème essentiel, ce ne sont pas les clubs qui forment les champions. Ce sont les ligues qui sont chargées de former les meilleurs joueurs. Ce sont les ligues, hein. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les ligues sont complètement désertées.
Vide, ouais.
Ou alors, on a des entraîneurs qui sont des fonctionnaires ou des gens qui sont contre la technique. Écoutez bien, il y a une époque, la Ligue des Yvelines, il y avait Odile de Roubaix. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Odile de Roubaix est prêché un tennis naturel. Surtout, il ne faut pas contraindre l'élève.
Ah oui.
Il faut le laisser faire, bon, etc. Moralité, on a vu la Ligue des Yvelines qui a fait une chute vers le bas. Énorme, énorme. Mmh. Et heureusement que certains clubs comme Giordano à plaisir ou qui ont tenu la route et qui se sont un peu battus contre elle, hein. Mais sinon, c'était une catastrophe. C'était le centre où on formait de la technique au plus haut niveau, où on faisait pas de technique. Mmh. Non, mais il faut voir, il y a,
c'est quelle année, ça?
Bon, ouais. Moi, j'ai été à la Ligue, bon, c'était il y a 20 ans, 25.
Ouais, d'accord. Alors, le pratiquant de l'humour, Christian, le pratiquant de l'humour, qu'est-ce qu'il en pense, lui?
Bah, j'écoute ce débat avec attention, ouais. Parce que c'est intéressant. Après, moi, pour revenir plutôt sur Roland Garros, et sur les Français en général, j'espère que cette disette va faire bouger les choses, quoi. Ouais. Parce que, bon, moi, j'ai 34 ans là en juin et, J'ai jamais vu un Français gagner Roland Garros.
Ah oui, ça fait partie des...
Non mais c'est vrai. On parle toujours de Noah.
Ah ouais.
Après il faudrait
rando, ouais.
Voilà, après non mais moi je
Donc t'as pas vu Noah, t'as pas vu de Français vainqueur du Tour de
non,
France.
Non, bah après il y a eu des
Français champions.
J'ai vu des Français aller en demi, hein, quand même. Ouais, je me rappelle de Sébastien Grosjean, que j'aime beaucoup.
Et Pierce quand même qui avait gagné.
Marie Pierce. Voilà. Son gars, même mon fils, il a été en demi, oui, je crois. Mais après, moi, j'attendais beaucoup cette année d'Hugo Humbert, que je suis et qui est quand même un bon joueur, et je pense qu'il a la relève. Après, il a été moins bon sur ce Roland Garros, et il est moins bon sur terre, je pense, que sur surface rapide, de toute façon. Mais moi, je l'ai dit en préambule du débat, c'est que j'espère que la Fédé va comprendre et va accompagner maintenant les joueurs, même sur le circuit professionnel. Il faut de toute façon s'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'étranger. Et quand on voit, Nicolas parlait des entraînements intensifs de Nadal et de la performance et de l'excellence, il faut s'en inspirer. Quand les meilleurs gagnent et sur le long terme, bah il n'y a pas de mal à suivre cet exemple-là.
Allez, Nicolas, juste un mot et ensuite on envoie la deuxième.
Il y a une autre chose très importante, c'est la surface. Aujourd'hui en France, on joue plus sur terre battue.
Ah ouais.
Et on voit Hugo Humbert par exemple, c'est la relève de demain, mais sur surface rapide. Et sur terre, il a plus de mal. Il a pas gagné un match sur terre, je crois là. Enfin, sur sa saison de terre battue, il a pas gagné un match. Et en fait, la terre battue, c'est celle qui forme, qui est la plus polyvalente, parce qu'on est obligé d'être fort techniquement, physiquement et tactiquement. Et en fait, aujourd'hui, vu que les clubs, il y a des coûts derrière d'entretien, on n'a plus de cours en terre battue. Nous, on en a un à la Clairière, c'est un terre balle, donc c'est une terre battue artificielle, mais ça se fait plus beaucoup. Et je pense que comme les jeunes, quand vous avez le centre de ligue, c'est de la résine. Et tous les centres de ligue sont comme ça. Pratiquement, hein, pas tous, et je fais pas une généralité, mais aujourd'hui, globalement, ça s'est perdu, cette surface. Et donc, je pense à la formation, si on remettait la terre battue au centre dans les clubs, je pense que ça changerait aussi beaucoup de choses.
D'accord. Bah tiens, tu nous envoies la pub pour l'instant.
Alors on envoie la pub, ça.
Allez, on y va.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21 20.
Nouveau à Limours, votre magasin Brico Marché ouvre désormais ses portes le dimanche de 9h30 à 12h30. L'occasion de profiter jusqu'au 30 juin de la foire au terreau et de la foire au paillage pour faire de belles affaires.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie Béchouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie, bijouterie, joaillerie, Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous souhaitez réaliser des travaux dans le neuf ? Rénover et mettre aux normes vos installations électriques ? Programmer et gérer efficacement votre chauffage électrique ? Plus d'hésitation, contactez la société Brifo Électricité, votre spécialiste. Devis gratuit et dépannage rapide. Brifo Électricité, 01 30 46 11 56 et sur brifo-électricité.com.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Nicolas, on va profiter de ce bilan de Roland-Garros pour faire un petit peu une annonce pour le tennis club de la Clairière qui recrute déjà.
Oui, oui, oui. Donc nous, on fait, malgré le Covid, globalement une bonne année. Mmh. Et comme je disais hors antenne, les adhérents continuent à jouer et on recrute même des nouveaux adhérents donc en cette fin d'année. Et voilà, juste pour les auditeurs, sachez que il y a les nouvelles inscriptions qui vont débuter samedi prochain et qui vont avoir lieu sur trois dates, donc samedi 19 juin de 10h à 17h au Clubhouse, le mercredi 23 juin, pareil de 10h à 17h, et le samedi 26 juin, 10h-17h. Lors de ces dates, voilà, vous sélectionnez donc les créneaux horaires qui vous intéressent, et notamment les groupes seront reportés d'une année sur l'autre lorsqu'il n'y a pas des évolutions fortes sur le plan tennistique.
Voilà. D'accord. Merci en tout cas. Puis on aura l'occasion de se revoir hein, à la rentrée, notamment
exactement.
Sur le forum des associations.
Ouais.
Un petit mot
merci.
Pour Pierre, pour faire la transition avec sur notre passion le foot. Hein.
Oui.
Pierre, l'équipe de France, il gagne 3-0 contre la Bulgarie donc mardi. Bah ça prouve que l'équipe de France est fin prête.
Oui. Hein, on a hâte qui joue mardi
bon,
là.
Ouais.
C'était
ouais.
Bon. C'est vrai que la Bulgarie c'est pas une opposition.
Oui. Enfin bon, les joueurs ont
mais,
fait le match.
Ils voilà, ont
été,
ils ont fait le travail, ils ont fait le job.
Et les remplaçants étaient aussi bons que
voilà.
Que
surtout Giroud,
oui.
Qui est rentré, qui a mis un doublé. Et, mais c'est vrai qu'on a eu une petite inquiétude pour la blessure de Karim Benzema. Mais bon, ça devrait, c'est un coup, donc ça devrait le faire. Mais oui, on a hâte. Et puis ce match nous a encore plus donné confiance. Quoi, on a vraiment l'impression qu'on peut le gagner cet Euro.
Ouais, alors l'Italie a gagné 3-0, c'est le score à la mode hein, devant la Turquie. Hier, la Belgique bat la Russie 3-0. Et puis, donc, match nul entre le Pays de Galles et la Suisse. Et puis, victoire de la Finlande 1-0 face au Danemark, après bien des frayeurs.
Hein. Oui, Christian Eriksen, leur numéro 10 star, qui s'écroule et qui fait un malaise, on a eu tous peur. Je veux dire, il a eu besoin d'un massage cardiaque et aujourd'hui ça va mieux.
Oui,
j'ai vu ce matin
qu'il avait
donné des nouvelles rassurantes. Mais c'est vrai que jouer dans un contexte comme ça, la Finlande a gagné 1-0. Je pense que les Danois avaient la tête ailleurs.
Oui. Ils ont raté un penalty en plus.
Ouais, voilà.
Ouais.
Mais c'est vraiment plaisant là de l'Euro qui démarre un beau match d'ouverture, l'Italie outsider
oui.
qui met on attendait plus de la Turquie, on pensait qu'il parce que la Turquie contre la France, ils nous avaient battu deux fois quand même.
Oui.
Donc
oui. Comme quoi, vous voyez.
Voilà, on pensait qu'il serait peut-être un peu plus haut, mais là l'Italie a quand même déroulé. La Belgique favori
oui.
hier qui a été solide avec un gros Lukaku, un grand Lukaku. Maintenant, on attend mardi avec impatience. Là, cet après-midi, 15h, un gros match Angleterre-Croatie aussi, qu'on va suivre, voilà.
On va zapper.
Mais tant mieux. Oui, voilà.
Ça prouve que la vie reprend, quoi.
C'est ça.
Hein,
donc,
voilà.
Ça fait plaisir. Non, mais en
voilà.
plus, il y a de l'ambiance dans les stades. C'est plaisant.
Très bien. Merci Pierre. Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Philippe. Merci à tous.
Pour Tribune Foot, hein, puisqu'on va rentrer en configuration Euro et Tour de France après. Merci Nicolas. À très bientôt.
Merci beaucoup. Oui. À très bientôt.
Voilà. Et puis merci à Christian. Bon, demi-finale de rugby, Christian. La Rochelle, Racing 92 et Toulouse, Bordeaux-Bègles. Hein. Voilà.
Voilà. Hein,
après.
Deux très belles demi-finales.
Ouais. Belle année pour le rugby français avec donc Toulouse qui a gagné un cinquième titre de champion d'Europe et puis Montpellier qui avait gagné le challenge européen. Merci en tout cas, à très bientôt aussi Christian,
voilà.
Pour le tennis, pour le rugby et puis pour le sport en général. Merci à Guillaume qui a pas perdu la main, c'est bien, hein, donc tout va bien. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, 10h-11h, configuration Euro. On reviendra aussi sur le prix RVE qui s'est déroulé la semaine dernière puisqu'on aura les pronos de notre ami José pour la réunion du 20 juin. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Et puis, vive le sport et vive la vie. On est ravis, en tout cas, d'avoir retrouvé nos studios ce matin. Et bon dimanche.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Vaccination. 30 millions de personnes ont reçu au moins une dose en France. Annonce faite hier par Jean Castex sur ses réseaux sociaux, soit 3 jours avant la date prévue par l'exécutif. Par ailleurs, la vaccination pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans va commencer mardi. Pour le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer, c'est d'ailleurs un impératif arithmétique pour atteindre l'immunité collective. Variant Delta, un cluster a été détecté dans une école d'art à Strasbourg. Selon la l'Agence régionale de la santé. 4 cas positifs ont été identifiés et 43 sont en cours d'investigation. Au total, 143 personnes ont été testées vendredi.